Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 90.8. On se retrouve avec Nina pour une nouvelle apérophonie. Salut Nina.
Salut Antoine. Effectivement, ce soir, notre apérophonie est dédiée à l'Europe. C'est un sujet en vogue à Grenoble en ce moment. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a le Festival de Géopolitique organisé par GEM, Grenoble École de Management, et qui a choisi de s'interroger sur l'Europe, l'Union ou la désunion européenne.
L'Europe est aujourd'hui en crise, c'est difficilement contestable entre le Brexit, la montée des populismes, la crise italienne, la crise catalane. Toutes ces questions soulèvent des interrogations quant à la solidité de cette construction. Quelle Europe nous attend dans les années à venir? Une Europe de l'Union ou une Europe désunie? C'est ce que nous allons voir ce soir.
Et oui, ce soir nous avons choisi de nous réunir, pas en tant qu'experts, mais en tant que simples étudiants pour discuter de l'Europe. Nous avons avec nous ce soir trois étudiants de Sciences Po qui viennent discuter avec nous sur la question de l'Union européenne, de leurs sentiments sur l'état actuel de cette communauté. On commence par toi, si tu veux, William, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es donc président de Contre-Courant, ou en tout cas membre de l'association Contre-Courant de Sciences Po Grenoble. Ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton association, en quelques mots?
Alors, je suis étudiant en troisième année à Sciences Po et je suis coprésident de Contre-Courant. Et notre association, elle cherche à promouvoir des débats autour de thématiques socio-économiques principalement et de proposer des alternatives en fait globalement au système dans lequel on vit. Voilà.
D'accord. À tes côtés, nous avons Jean-Christophe qui vient pour représenter les jeunes européens, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Christophe?
Bonsoir tous les quatre. C'est donc Jean-Christophe, trésorier des jeunes européens. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, cette association est présente sur toute la France et a pour but de promouvoir le débat européen et de militer pour l'Europe et surtout pour le fédéralisme européen.
Et le dernier de nos invités, Léo, toi tu es coprésident de Think Libéral, encore une association de Sciences Po Grenoble. Est-ce que tu peux te présenter?
C'est ça. Alors, je suis coprésident de Think Libéral. On est une association de Sciences Po Grenoble qui organise des débats, des conférences et tout autre type d'événements autour des libertés, que ce soit les libertés politiques, les libertés économiques, sociales et tout ça autour de la liberté individuelle. On organise des cafés-débats très régulièrement à la table ronde. Donc, voilà.
Ok, une première question adressée à l'ensemble de nos invités. C'est Antoine qui a choisi cette question. Pour commencer en bonne humeur, est-ce que chacun d'entre vous, chacun votre tour, vous pouvez faire un compliment puis un reproche à l'Union européenne?
Allez William, on commence par toi.
Un reproche, ça va être la mise en concurrence à peu près de tout le monde contre tout le monde, c'est-à-dire au niveau de la mobilité des capitaux, où les investisseurs qui ont de l'argent à placer vont pouvoir mettre en concurrence tous les systèmes des 27 pays. Vont pouvoir mettre également en concurrence les travailleurs qui peuvent bouger d'un pays à l'autre, ainsi que tout ce qui est biens de marchandises, biens et services, qui vont pouvoir, avec le marché commun, mettre en concurrence tous les systèmes sociaux et environnementaux, tous les systèmes de régulation des différents pays en concurrence, et donc ils vont pouvoir bénéficier des coûts les plus faibles. Au niveau d'un avantage. Moi, je retiens comme avantage qu'en fait, l'Union européenne, on pourrait en faire autre chose. Et par exemple, je pense qu'on peut la démanteler à un certain niveau, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à garder dedans. Et ça va être un peu bateau, mais c'est vrai que le programme Erasmus, on en a tous bénéficié ici. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est profondément positif et que je pense qu'on doit garder.
Difficile d'arracher un compliment de la part de William.
On retiendra que le principal compliment, c'est qu'on peut la démanteler. Bon, un avis peut-être opposé avec toi, Jean-Christophe.
Moi, je voudrais commencer par rejoindre quand même William sur la critique. Le problème de l'Union européenne actuelle, c'est qu'elle met les peuples européens en concurrence sur tout un tas de sujets, que ce soit l'économie, le social, mais ça peut être la défense, ça peut être les politiques environnementales. Et donc, le problème de l'Union européenne, pour moi, c'est évidemment que c'est un ensemble d'États et pas un État fédéral unifié. Sinon, comme compliment, tout d'abord, c'est bateau, mais la paix en Europe, quand même, qui existe depuis 1945, si on exclut les guerres yougoslaves, qui avaient le malheur de ne pas être dans l'Union européenne.
Alors, Léo, à toi.
Moi, je vais les rejoindre également sur la concurrence, mais je vais en faire un avantage, parce que je pense que l'Union européenne, depuis sa création, a eu le talent, si on peut dire, de mettre en concurrence différents modèles, que ce soit différents pays ou différentes visions du monde, pour au final finir par choisir la meilleure. C'est un des bénéfices de la concurrence qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a un marché commun, qui est un marché concurrentiel. On a une Union européenne où le niveau de vie est très élevé, plutôt très élevé au sein du monde des pays développés. Et toute cette mise en concurrence a permis d'arriver à une longue période de paix et de prospérité qu'on n'aurait sans doute pas atteint sans ça, puisqu'on remarque qu'ailleurs dans le monde, des pays de la taille des États membres de l'Union européenne ne s'en sont pas aussi bien sortis que nous. Et ce qui nous différencie d'eux-mêmes, c'est notre participation à l'Union européenne. Si je devais y apporter une critique, ce serait, je pense, le caractère un peu trop bureaucratique, un peu trop inhumain de cette organisation. Et je pense que l'Union européenne a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, de redonner un peu plus de pouvoir aux individus et dans différents domaines, que ce soit leur vie de tous les jours, la politique, les nouvelles technologies, etc.
Alors justement, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que la seconde question qu'on voulait vous poser, c'est que vous, à votre échelle, en tant qu'étudiant, est-ce que vous vous sentez concerné par l'Union européenne directement ?
Est-ce que vous vous sentez européen même ?
Et est-ce que, oui, voilà, par extension, est-ce que vous vous sentez européen ?
Alors je vais commencer du coup. Alors moi je répondrai qu'évidemment oui, je me sens européen, sinon je ne serais pas aux jeunes européens. L'une des meilleures manières de se sentir européen, je pense, c'est la libre circulation. Quand on a l'opportunité de voyager en Europe sans passer par la douane et de se faire comprendre aussi partout en Europe, d'avoir les mêmes règles de base à peu près partout. On se sent finalement un petit peu chez soi partout, tout en ayant une culture tout en profitant d'une culture différente, ce qui définit bien l'Union européenne, unie dans la diversité, ou malgré la diversité, j'en doute.
Quelqu'un d'autre veut rajouter
Moi, je dirais que je me sens profondément européen et français, comme Joaquin Sonforger, en fait. Et non, après, pour moi, c'est-à-dire que je me sens européen, mais je considère que cette Union européenne qu'on a actuellement, en fait, elle sert avant tout les intérêts de ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, des banquiers, des très grandes multinationales, et pas les intérêts des différents peuples européens. Je pense qu'en fait, on peut tout à fait maintenir, et c'est souhaitable, un certain nombre de niveaux de coopération entre les pays européens, en termes scientifiques, en termes d'échanges universitaires, en termes de développement spatial, ce genre de choses. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, je considère que l'Union européenne actuelle met plutôt les peuples en concurrence les uns contre les autres, et que c'est aussi une des raisons de la montée des populismes et tout ça. Je pense qu'on pourrait y revenir.
D'accord. Et toi, Léo ?
Alors moi, je vais dire que je me sens assez européen et à la fois pas européen du tout. C'est assez complexe à définir, mais y a dans ce projet d'Union européenne une volonté de dépasser les identités nationales. Et je pense que l'Union européenne n'a pas encore réussi à parfaire ce travail aujourd'hui. Donc en effet, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de raisons de se sentir européen. On va le voir d'ici un peu plus d'un mois. Il y a les élections européennes qui vont arriver, il y a l'exercice de la démocratie qui se fait. On en a parlé également, le programme Erasmus qui fait une espèce de mélange culturel et la libre circulation des personnes qui permet aussi un beau melting pot européen. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'il y a encore trop peu de conscience politique commune et d'exercice de la démocratie à l'échelle commune. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rejettent l'Union européenne et qui ne se sentent pas membre à part entière de cette Union européenne en tant qu'individu.
Tu viens d'évoquer les élections européennes, donc on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais un des sujets qui me semble important, c'est l'identité. C'est l'identité nationale. Est-ce que c'est important ? Est-ce que justement on devrait prôner une identité européenne ? Voilà. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question sans tomber
dans... Ouais, finalement, est-ce que le dépassement de l'identité nationale est souhaitable ou devrait être un objectif à terme ? Ou est-ce que finalement, il faut rester plus positionné sur une idée d'Europe des nations ou des peuples ?
Alors, mon avis est assez relatif à ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, ce dépassement de l'identité nationale, il ne doit pas être un remplacement de l'identité nationale. L'idée n'est pas de trouver une nouvelle identité européenne au prix d'effacer les identités nationales. On a 28 États membres aujourd'hui, 27 peut-être demain, on ne sait pas encore. Il doit rester 28 cultures différentes au sein de l'Union européenne. Et quand je dis 28, c'est même plus que 28, parce qu'au sein de chaque État membre, il y a plusieurs cultures différentes. Je pense que tout le monde ici est d'accord là-dessus. Le fait est que l'Union européenne a la possibilité de mettre en place un vrai espace public européen où les gens partagent des valeurs communes, où les gens partagent une certaine identité commune, une même conception de l'état de droit, une même conception de la démocratie, du marché commun, de l'économie et de la société. Cependant, ça ne doit pas mettre de côté les spécificités nationales, notamment personne ne souhaite ici, je pense, que advienne, enfin à part les personnes qui ont voulu mettre en place l'espéranto, qu'advienne une langue universelle européenne ou que certaines personnes...
Et qui nieraient les autres cultures.
Qui nieraient totalement, exactement, les autres cultures.
Après, sur la même conception de l'état de droit, de la démocratie, peut-être que quelqu'un veut rétorquer.
Bah moi, ce que j'aurais ajouté, c'est que, à mon avis, les peuples des différents pays de l'Union européenne, 27 ou 28, en fait, ils se sont constitués de manière politique durant des décennies, voire des siècles. Et de toute façon, on peut effectivement maintenir un certain nombre de coopérations. Mais après, les gens se sentent français, les gens se sentent britanniques, les gens se sentent espagnols ou je ne sais quoi. Derrière, on peut se sentir européen, mais ça ne veut pas dire qu'on se retrouve dans cette Union européenne. Ce que je pense derrière, c'est que les deux sont compatibles, en fait. Mais je pense que simplement, c'est pas, on ne pourra pas créer une identité européenne ex nihilo, et surtout de la façon dont on essaye de le faire aujourd'hui, en nous mettant en avant le fait que l'Union européenne serait une sorte d'harmonie pour la démocratie, qui permettrait la paix, qui permettrait la prospérité, etc. Non, c'est pas le cas, en fait. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle appauvrit la plupart des gens qui vivent dedans, et au profit de quelques-uns. Elle détruit l'environnement, et il y a beaucoup, beaucoup de critiques à apporter sur le fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Après, ça ne veut pas dire que les États sont forcément plus démocratiques ou font forcément mieux, mais ça veut dire que derrière, les gens se retrouvent davantage dans des identités nationales qu'au niveau de l'Union européenne.
Mais ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'on peut distinguer le fait de se sentir européen sans forcément adhérer au modèle politique européen.
Absolument.
Voilà, d'accord.
Oui, je pense qu'il est déjà extrêmement important de considérer l'Union européenne comme un outil, finalement, et tout dépend ce qu'on en fait, et tout dépend également donc des traités. L'Union européenne pourrait être totalement différente et avoir des effets différents. Donc, enfin, l'Union européenne n'est pas liée à l'identité européenne, c'est quelque chose de différent. En fait, je rejoins un petit peu mes deux camarades en disant qu'évidemment, il ne faut surtout pas une homogénéisation. Y compris au niveau national d'ailleurs, il faut garder les identités également régionales. Mais je pense que c'est bien d'avoir également une sorte de base minimum commune. Et on peut très bien considérer que la culture française est finalement une culture européenne, serait une sous-culture européenne, c'est une façon de voir les choses.
Oui, pardon, J'ai eu le malheur de lever la main, ce qui a interrompu Jean-Christophe, je suis désolé, tout va bien.
Pour répondre un petit peu à ce que William disait, c'est vrai qu'il n'y a absolument pas la volonté, je pense, de créer une identité européenne ex nihilo, puisque c'est pas souhaitable, c'est difficilement concevable, et je pense que personne n'en bénéficierait. En revanche, ce que tu as dit sur l'identité, le sentiment d'appartenance européen, je pense que, enfin, je suis pas très d'accord là-dessus, puisque le sentiment d'appartenance nationale, au final, il n'existe pas depuis 2000 ans, il n'existe pas depuis 1500 ans, il n'existe pas depuis l'avènement de notre planète ou de notre civilisation. Le sentiment d'identité nationale, notamment en Europe, la création des États-nations telles qu'on les connaît aujourd'hui, a émergé, au final, courant 18e, 19e siècle.
Oui.
Donc ça fait, grosso modo, 300 ans qu'on commence à avoir un sentiment d'identité nationale. Sentiment d'identité nationale, il n'est pas apparu simplement en venant des populations. Il est apparu suite à une succession de lois, de politiques qui ont été menées pour justement unifier les États-nations européens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit que l'Union européenne, elle n'a pas cette vocation-là de créer une identité européenne, que c'est uniquement un marché qui profite aux plus riches plutôt qu'aux plus pauvres. Je ne suis pas totalement d'accord là-dessus. En effet, les traités européens qu'on a aujourd'hui, ils datent peut-être d'il y a 50 ans, mais la volonté d'avoir un peuple unifié européen, il date d'il y a beaucoup plus longtemps, et ça fait déjà une centaine d'années qu'on parle d'un peuple unifié européen. Donc je pense que les deux, les identités nationales comme l'identité européenne, ont leur légitimité autant dans le temps que dans les faits.
Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que en fait, moi, je me sens, comme je disais, je me sens français et européen, et je différencie un petit peu les deux, de l'Union européenne et le sentiment d'être européen. Après, ce que je considère, c'est que justement, cette Union européenne actuelle, et là, on pourra parler de comment on peut la changer ou pas, parce qu'on parlait des traités, mais qu'actuellement, de toute façon, elle met en concurrence les peuples les uns contre les autres, et on voit que ça commence déjà à pas mal dégénérer. Et ma vision des choses par rapport à cette question de l'identité, c'est qu'actuellement, les gens se sentent avant tout une identité nationale parce que c'est quelque chose qui est sédimenté depuis pas mal de temps et qu'actuellement, la démocratie est la mieux organisée à l'échelle nationale. Je ne dis pas que c'est la perfection, évidemment. Quand on parlait de l'état de droit, etc., on peut parler de la Hongrie et de la Pologne qui ont des contextes assez particuliers et qui aussi ont des raisons particulières pour lesquelles c'est devenu des pays dont on dit démocratie libérale. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour moi, on n'arrivera pas à créer cette identité européenne à travers l'Union européenne si justement on ne fait que mettre en concurrence tout le monde.
Est-ce que justement, on parle beaucoup de peuple depuis tout à l'heure, qui dit peuple finalement dit souveraineté. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut ou on ne peut pas parler de souveraineté européenne ou en tout cas de souveraineté du peuple européen ?
Pour reprendre les doux mots de la lettre d'Emmanuel Macron aux Européennes, lui, qui parlait de souveraineté européenne. Est-ce que ça existe ou c'est une...
Ou c'est de la poudre de perlimpinpin.
Alors, je pense pas que ce soit de la poudre de perlimpinpin, même si la vision qu'il en a n'est pas forcément celle à adopter. Emmanuel Macron, dans son discours d'Athènes, il y a, alors je sais plus exactement combien de temps, mais il me semble un peu plus d'un an, avait fait le vœu de dépasser la souveraineté nationale et d'arriver au niveau du post-nationalisme. Donc le post-nationalisme, aujourd'hui, ce serait adopter une certaine souveraineté européenne. Donc on a parlé de souveraineté populaire. Je pense que la souveraineté populaire peut s'atteindre à travers plus de démocratie au sein de l'Union européenne. La souveraineté politique, en revanche, je pense que c'est assez difficile et c'est pas forcément souhaitable d'avoir une souveraineté politique à l'échelle européenne, ni à l'échelle nationale d'ailleurs. Je suis pas beaucoup plus... en faveur des souverainetés nationales et du souverainisme national, mais simplement bâtir l'Union européenne sur l'idée de calquer un modèle qu'on a au sein des États-nations et de reproduire cette même souveraineté, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Je pense qu'on bénéficierait plus d'une diversification des souverainetés, d'une diversification des acteurs, et que le pouvoir ne soit pas concentré, la souveraineté ne soit pas concentrée uniquement à Bruxelles ou uniquement à Paris comme on l'a aujourd'hui.
Quelqu'un souhaite répondre ? Ou on est tous bluffés par la réponse de Léo là ?
je considère, en fait, souveraineté européenne, Macron, il parle de quoi ? Enfin, moi, derrière, c'est en fait de qui on parle. L'Union européenne, aujourd'hui, on nous vend un petit peu quelque chose comme si, en fait, c'est juste, le problème, c'est qu'on ne serait pas allé assez loin. C'est-à-dire qu'il faudrait créer une armée européenne, par exemple. D'accord, mais on fait une armée européenne, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 27 ou 28 États qui ont des politiques étrangères qui, pour l'instant, sont différentes. Ce n'est pas pour ça qu'on va se mettre d'accord. Prenons un exemple, c'est la Russie. Les États-Unis seraient ravis de leur faire la guerre. La France suit à mort pour l'instant. Et les Allemands, ils n'ont pas envie parce qu'eux, ils savent très bien qu'ils continuent à construire des gazoducs pour amener du pétrole chez eux, etc. C'est tout con, hein, mais c'est ce genre de choses. Et après... Si on parle de souveraineté européenne, en fait, c'est nier de fait la souveraineté des États. Or, la plupart des gens, pour l'instant, se retrouvent davantage à l'échelle nationale en estimant qu'ils peuvent défendre à peu près leurs intérêts à ce niveau-là, alors qu'au niveau européen, ils s'estiment complètement délégitimés par tout ça. Après, il y a déjà eu des transferts de souveraineté très importants avec des institutions de l'Union européenne, et puis il y a la question de l'euro qui ne concerne pas tous les pays. Mais dans tous les cas, pour l'instant, les gens se sentent surtout dépossédés. Et cette souveraineté... européenne, pour l'instant, elle se fait surtout au détriment des peuples, donc c'est pas une souveraineté qui est véritablement populaire. C'est pour ça que c'est pour moi le vrai problème dans cette histoire.
Je pense que la réponse aux interrogations très légitimes de William, je radote, ce serait en fait d'avoir un État européen, alors que moi je défends très, très décentralisé, donc fédéral et très décentralisé au niveau des régions, pour que la démocratie aille au plus près des citoyens quand les décisions peuvent être prises au plus près des citoyens. Maintenant, tu as tout à fait raison, notamment quand tu parles de la défense, on peut difficilement avoir une vraie armée opérationnelle européenne sans avoir une stratégie commune. Donc en ayant 28 États avec des intérêts différents, si on avait un État unique, on aurait à force, pas du jour au lendemain, mais on aurait des intérêts uniques. Mais tu as totalement raison qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'en ce moment, la France et l'Allemagne parlent beaucoup de relancer le couple franco-allemand sur la défense. La pouliche de Merkel en Allemagne propose même un porte-avions franco-allemand. Mais du coup, pourquoi faire ? Alors, je rends hommage à Fabien Terpan qui m'a appris ça aujourd'hui, professeur à Sciences Po Grenoble. Quand en 2017 les Chinois ont quand en 2017 les Chinois ont commencé à artificialiser les îles paracelles, la France, avec monsieur le ministre Drian, a proposé à l'Allemagne d'envoyer des navires là-bas pour montrer la présence franco-allemande. L'Allemagne leur a répondu, mais pourquoi faire ? Et aujourd'hui, ils comprennent bien que c'est un vrai problème pour l'Allemagne, même si ça se passe à l'autre bout du monde.
Bon, il est temps de faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après pour encore plus de débats. On écoute Happy in the Hollow du groupe Toy. Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8.
C'était Happy in the Hollow du groupe Toy. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble et vous êtes toujours au sein de cette apérophonie dédiée à l'Europe ce soir. Petite question simple pour reprendre. On se demandait si vous, aujourd'hui, là, vous aviez des exemples concrets de la présence de l'Union européenne dans votre quotidien.
Alors, bah, si je peux commencer très simplement, le programme Erasmus, dont on a bénéficié en tant qu'étudiant de Sciences Po, ça a été dans notre quotidien pendant un an non-stop et ça a été assez présent. Et après, sinon, au jour le jour, les cours de droit de l'Union européenne, l'angoisse, le fait de pouvoir payer dans une monnaie commune qui est commune à 19 États membres aujourd'hui. Et tout simplement, le fait de pouvoir voyager au sein de l'espace Schengen sans les contraintes qu'il peut y avoir en voyageant ailleurs de cet espace.
Bah, parlons-en justement de la monnaie. On a rapidement parlé de la libre circulation tout à l'heure, mais là, la monnaie, donc l'euro, que nous avons toujours connu, nous sommes étudiants de 20 ans, ou 21 ans, mais l'euro a toujours été au sein de nos échanges financiers, mais même aussi un signe peut-être d'une appartenance culturelle plus large. Est-ce que l'euro est encore un sujet aujourd'hui à débattre ?
Je pense que c'est absolument un sujet à débattre. En fait, oui, c'est vrai, nous, on n'a pas connu le franc ou le Deutschmark ou ces genres de choses. En fait, pour moi, c'est un vrai sujet. On a voulu créer cette monnaie, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne était relativement réticente, et Mitterrand les a convaincus en disant « on va leur clouer la main sur la table », etc. En fait, c'est l'Allemagne qui a eu ses intérêts qui ont été les mieux favorisés par l'euro. En fait, je pense que quand on parle de l'euro, en fait, on parle de quelque chose qu'on a l'impression de connaître. Nous, par exemple, on n'a jamais vécu de dévaluation. On n'a jamais vécu de période avec beaucoup d'inflation. C'est pas forcément une mauvaise chose, peut-être tant mieux. Mais le fait est qu'en fait, on peut avoir, par exemple, 5 ou 10% d'inflation. Si les salaires suivent derrière, c'est très très bien parce que c'est un outil redistributif génial. Parce que, à condition que les salaires suivent, bien sûr, parce que derrière, en fait, la valeur des patrimoines accumulés, des dettes accumulées, est révisée vraiment à la baisse. Et c'est un truc qui peut être positif. Aussi, on sait que que l'euro est surévalué pour la France d'environ 30%. Ça veut dire que si on avait notre monnaie nationale, sans doute qu'elle vaudrait moins, et ça pose des questions pour les importations, mais par contre, on pourrait exporter aussi plus facilement. Et enfin, surtout, on aurait notre souveraineté monétaire, parce que là, on ne peut pas emprunter auprès de notre banque centrale actuellement, alors que finalement, on pourrait le faire si on était indépendant. Donc pour moi, j'aimerais qu'on sorte de l'euro, mais je pense que ce qui est important derrière, surtout de comprendre, c'est que l'euro, de toute façon, va à l'effondrement parce que derrière, il essaye de défendre les intérêts de 19 pays qui sont très, très, très différents. Et globalement, il n'y arrive pas. Et on sait que nos voisins italiens sont très critiques par rapport à l'euro. Je pense qu'en France, cette position, elle mérite d'être discutée encore plus parce que, en fait, on manque beaucoup de débats sur cette question-là.
Jean-Christophe ?
Alors, déjà, on a jamais connu d'autres monnaies. Du coup, on ne sait pas vraiment. On n'a jamais eu la possibilité de comparer, on n'a jamais pu voir de grandes politiques monétaires changer et voir l'impact que ça a. Mais on n'a aussi pas vu les dégâts qu'ont pu faire certaines monnaies ou certaines gestions de la monnaie. Évidemment, le cas de l'Allemagne, où au début des années 20, l'Allemagne a été totalement ravagée par l'inflation et où les gens devaient ramener une brouette de billets pour payer leur pain. Un autre exemple qui est sûrement...
Le Zimbabwe. Non mais c'est pas une blague avec son inflation en millions de pourcents chaque année.
Ah oui, bah j'étais pas au courant, bah tu vas apprendre quelque Merci chose Antoine. Mais c'est le cas au Venezuela aussi également en ce moment. Quelque chose qu'on voit pas aussi, moi j'étais même pas au courant, mais j'ai vu une photo l'autre jour de gens militants à Bruxelles dans les années 90 pour la monnaie unique. Pour être sûr de ne pas avoir d'inflation. Alors évidemment, ce sont probablement ce qu'on pourrait appeler des marginaux, mais ça existait, et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui.
Moi, je pense qu'il y a...
Si tu me permets juste de rebondir, tu nous as beaucoup parlé de compétition, et je pense que c'est très important quand on parle de l'euro, parce qu'avant l'euro, on avait quoi ? On avait, en gros, dans les années 70, quand les États-Unis ont retiré l'indexation du dollar sur l'or,
ouais.
On a eu du coup une sorte d'emballement monétaire et une compétition monétaire entre les pays. C'était dès qu'un pays dévaluait, l'autre le faisait pour être au même niveau, et ainsi de suite, pour être toujours le plus compétitif. Ce qui n'amenait finalement à rien. Et ils se sont mis d'accord pour créer le serpent monétaire. Et ce serpent monétaire, en fait, c'était pas très différent de l'euro, puisque tout le monde devait être à peu près au même niveau et ne pas bouger. Et donc au final, on revient que si on n'avait pas l'euro, ce serait soit la compétition, soit le serpent monétaire qui serait très très proche quand même.
Je dirais deux choses pour réagir. C'est que, un, effectivement, il y a une similarité dans le fait que dans le serpent monétaire, les variations de taux étaient quand même encadrées. N'empêche que derrière, toutes les monnaies valaient pas la même chose. Or là, c'est le cas avec l'euro. La monnaie française, la monnaie allemande, la monnaie grecque, c'est la même. Et ça pose quand même un certain nombre de questions parce qu'elles devraient être plus ou moins évaluées différemment. Et l'autre chose que je voudrais rajouter, c'est par rapport à l'inflation. Les Allemands ont une hantise de l'inflation, c'est clair, c'est pour ça que la BCE met 2% maximum. Mais pour moi, c'est une connerie parce que, en fait, la question, c'est si l'Allemagne a peur de l'inflation, c'est parce que l'Allemagne, on lui a fait payer des réparations de dettes considérables après la Première Guerre mondiale qu'on n'aurait jamais dû mettre en place. Mais derrière l'inflation, c'est pas, faut pas en avoir peur. L'inflation, à condition que les salaires suivent, ça peut être intéressant parce que derrière, c'est un outil de redistribution. La seule condition, c'est de pas appauvrir les gens en faisant en sorte que les salaires suivent. C'est ce qu'on a eu pendant les 30 Glorieuses, juste pour finir, où on a eu entre 5 et 10% d'inflation, mais les salaires suivaient. Et vous avez plein, en fait, pour tous nos grands-parents qui ont acheté des maisons et qui n'ont eu aucune difficulté à rembourser leur crédit, c'est parce qu'en fait, sur 10 ou 20 ans, le crédit ne valait quasiment plus rien en valeur réelle.
Réponse rapidement, Christophe, après on passera à la suite. Mais...
Alors, tu as raison, mais en fait, ça dépend ce qu'on en fait de la monnaie. C'est-à-dire que tu me dis que l'Allemagne, alors c'est très clairement lié aux réparations qu'ils devaient payer, qu'ils ont été obligés de faire tourner la planche à billets. Mais il y a bien eu un moment, quelqu'un qui a dit, on fait tourner la planche à billets. Là, en Europe, personne ne peut faire tourner la planche à billets comme, c'est un sujet polémique, mais comme l'a fait Maduro, par exemple. Et donc, on est sûr que ça n'arrivera pas au moins. Mais tu as raison qu'évidemment, ça manque de flexibilité, parce que des fois, on aurait besoin d'un peu d'inflation et on ne peut pas. Et l'autre chose que je voulais très rapidement dire, c'est que le problème, par contre, de cette monnaie, c'est que du coup, ça avantage certains pays comme l'Allemagne, ce qui est au détriment d'autres. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'un État unifié avec les mêmes politiques fiscales serait probablement plus performant.
Jean-Christophe, je t'interromps deux secondes parce qu'on a une réaction sur Twitter.
Oui, parce qu'on a oublié de le préciser en début d'émission, mais vous pouvez tout à fait réagir en direct avec le hashtag Campus Grenoble. Et pour notre première réaction de l'émission, gros big up à Jean-Sébastien qui nous dit « Les crypto-monnaies, locales ou non, seraient-elles une alternative concevable à l'euro ou à un retour aux monnaies nationales ?»
Léo ?
Ah ben justement, je comptais prendre la parole sur la question précédente, mais ce cher Jean-Sébastien nous rajoute du grain à moudre, si on peut dire. En effet, oui, l'euro, il faut savoir que, en effet, on n'a pas connu autre chose que l'euro. Et si je puis dire, même nos parents, enfin je sais pas l'âge de vos parents, mais mes parents n'ont pas réellement connu autre chose qu'une monnaie commune avec des puissances européennes. En effet, depuis les années 80, la monnaie française est indexée avec la monnaie allemande. Le couple franco-allemand a exactement la même monnaie, donc même si la monnaie commune n'est arrivée qu'au début des années 2000, déjà depuis avant, on avait des monnaies. Le fait de centraliser cette monnaie à l'échelle européenne, ça a fait que aujourd'hui, on a un pouvoir monétaire qui est la Banque Centrale Européenne, qui s'accorde le droit de distribuer de l'argent. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de distribuer de l'argent dès qu'il y a un petit peu une crise économique. Et ça fait ça crée de la monnaie et ça crée inévitablement de l'inflation. Je pense que la solution à ce genre de problème, puisque c'est réellement un problème, d'ailleurs la Banque Centrale Européenne, si ça n'en était pas un, aurait décidé de continuer son émission de titres. Et d'ailleurs, elle a décidé...
Ils le font toujours, ils ont réduit le rythme. Mais
ils ont réduit le rythme, mais ça tend quand même à s'arrêter. Le meilleur moyen de régler ce problème, ce serait d'avoir une réelle compétition entre les monnaies. Alors là où je suis en petite contradiction avec ceux qui prendraient un retour aux monnaies nationales, c'est que je ne pense pas que les monnaies nationales puissent être un meilleur élément que la monnaie européenne.
Et les crypto-monnaies, une alternative ?
Justement, ça pourrait permettre de mettre en question la légitimité de l'État comme producteur de monnaie. Je ne pense pas que l'État doive être le seul organe à produire de la monnaie, que ce soit en termes de monnaie locale, il peut y avoir de la concurrence, ou également en termes de crypto-monnaie. Les autres monnaies peuvent concurrencer. C'est le Japon, il me semble, qui a décrété que le Bitcoin était un moyen légal de paiement. Et permettre à d'autres monnaies d'émerger comme ça, ça permettrait de remettre l'État en question, la place de l'État en question, que ce soit un État national ou un État européen unifié comme certains le voudraient, et la place de l'émission centrale de la monnaie. Avoir une certaine concurrence des monnaies comme ça, ça permettrait d'avoir non seulement une absence de crise énorme comme on a pu avoir en 2008 avec une seule monnaie qui prend tout dans la gueule dès qu'il y a une crise, et ça permettrait de régler un petit peu ces problèmes-là avec différentes monnaies en compétition.
Ok, on va clôturer ce débat. Merci Jean-Sébastien pour ta réaction sur Twitter. Une prochaine question sur un tout autre sujet.
Ouais, on va aborder la question inévitable des élections européennes à l'approche. Alors, on a une première question qui, en fait, recoupe un peu les discussions qu'on a depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous, là, ces élections européennes, elles vous concernent ? Vous avez l'impression qu'elles vous concernent ? Est-ce que si vous deviez graduellement les noter quant à l'intérêt que vous leur portez, par exemple, entre les cantonales, les municipales, les législatives, les présidentielles, vous les placerez où ? Vous les placeriez où, d'ailleurs, pardon ?
C'est une question intéressante. Je ne sais pas forcément où je les placerais. Bon, c'est vrai que de toute façon, en fait, pour moi, de fait, en France, les élections qui intéressent le plus les gens, c'est d'abord les présidentielles et les municipales, puis les législatives. Les européennes tombent dans ce truc avec les régionales et toutes les autres élections un peu secondaires. Le truc, c'est que moi, je suis relativement déçu, parce que ce serait l'occasion d'avoir un débat intéressant, autant... On élit des parlementaires européens qui ont un pouvoir qui est relativement limité, parce que le pouvoir est aussi partagé avec la Commission, et il ne faut pas se nier, les États ont un pouvoir, clairement, avec le Conseil européen. N'empêche que ce serait l'occasion, même si on ne va pas décider du futur de l'Europe en élisant des eurodéputés, ça c'est clair, et en plus c'est aussi un scrutin qui est dominé par les partis, parce que les partis font leur liste, donc ils mettent un peu qui ils veulent en avant. Par contre, ce serait l'occasion d'avoir un débat intéressant sur l'Europe. Or, c'est pas vraiment le cas actuellement, c'est ça qui me déçoit. Je ne sais pas si vous avez vu le clip d'En Marche pour les élections européennes, c'est impressionnant. Ouais. C'est que de la post-politique, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que c'est nous ou c'est le chaos. Sinon, c'est les méchants populistes, ils vont tout casser, ça va tout être détruit, ce sera la guerre, et nous, c'est la paix, c'est trop bien. Donc, faudrait aller plus loin que ce débat-là. Mais pareil, cette opposition entre soi-disant progressistes et soi-disant nationalistes, etc., Macron qui s'est opposé à Salvini, c'est quand même assez ridicule. Moi, ce que j'aimerais, c'est entendre des voix un petit peu dissonantes qui proposent autre chose. Et derrière, on est aussi à un moment où je pense qu'on pourra peut-être parler du Brexit vite fait, mais il y a un moment où, en fait, les gens, on aura le bol de cette Union européenne qui voit comme une structure technocratique, bureaucratique. Et là, on peut avoir la même critique que celle que Léo avait. Après, pour moi, les gens voient ça comme quelque chose de négatif parce qu'ils voient l'impact de ce qu'a sur leur vie. En fait, ils ne sont pas contre l'Union européenne en tant que structure technocratique ou bureaucratique, mais par les impacts qu'elle a concrètement sur leur vie en matière de concurrence économique et sur de choses. Donc je suis relativement déçu parce qu'en fait on pourrait avoir un débat intéressant, or aujourd'hui c'est pas le cas.
Et justement, quels seraient les sujets sur lesquels il faudrait débattre ou se concentrer pour vous, en tout cas pour rendre ces élections un peu plus attractives et un peu plus intéressantes pour l'ensemble de la communauté européenne?
Et je pense qu'un des premiers débats à avoir, vu que l'Union européenne déçoit, et c'est compréhensible, ce serait un débat sur les institutions. Comment améliorer l'Union européenne pour qu'elle soit à la fois plus efficace, mais surtout plus démocratique, dans le sens, elle est quand même très démocratique, mais dans le sens où les gens pourraient se rendre compte réellement de ce que fait l'Union européenne. Normalement, ces élections devraient vraiment concerner tout le monde. Je prends un exemple qui serait cher à mon ami William. Si vous êtes contre, par exemple, le TAFTA et tout autre accord de libre-échange, allez voter. Parce que si le Parlement était très à gauche... il n'y aurait pas d'accord de libre-échange. Ou en tout cas, le Parlement doit accepter l'accord de libre-échange.
Ouais, alors après, par rapport à ces accords de libre-échange, pour faire court, simplement, l'Union européenne a la compétence pour tout ce qui est matière commerciale, puisqu'on est dans une union douanière et un marché commun, et c'est la Commission qui négocie en secret ces accords-là, en secret parce qu'elle ne veut pas que tout soit tombé dans la nature, etc. Ça, c'est quand même un vrai problème. Et derrière aussi, on sait que ces accords-là, en fait, à partir du moment où ils sont signés, et même pas encore ratifiés par les parlements nationaux, ce qui bientôt sera même plus le cas, en fait, rentrent déjà en action préventivement. Et le Parlement européen, pour l'instant, qui est dominé par une coalition entre la droite du Parti populaire européen et les sociodémocrates, on vote systématiquement pour. Donc, effectivement, le Parlement européen peut avoir un mot à dire là-dessus, mais actuellement, il faut aussi renouveler la Commission, quoi.
Alors là où je vais venir en accord avec William, ça va être déjà le côté de manque de démocratie au niveau du Parlement. Je pense que ces élections européennes, si elles manquent d'intérêt, c'est pour trois points. Premièrement, le manque de pouvoir du Parlement. On devrait avoir une Union européenne qui est réellement parlementaire, avec un Parlement qui représente mieux les citoyens, donc avec la fin des élections avec liste nationale notamment. Un Parlement qui représente mieux ses citoyens et qui puisse avoir plus de pouvoir face notamment à la Commission, qui est un organe qui aujourd'hui est un peu fantomatique pour les gens qui votent aux élections européennes. Les gens voient la Commission comme quelque chose de technocratique sur lequel ils n'ont rien à dire. Et c'est très juste ce que tu as souligné, c'est que la Commission fait un peu ce qu'elle veut et le Parlement est uniquement là pour approuver. Le deuxième point, ça va être l'absence de débats européens et la présence de débats uniquement nationaux. C'est aussi ce que tu as dit, c'est que c'est les partis nationaux qui font leur jeu. On n'a pas réellement de position européenne qui émerge au sein de ce débat. Et donc là aussi, on voit que finalement, le pouvoir européen n'a pas vraiment de place et que c'est uniquement les États membres qui continuent à faire un petit peu leur jeu politique, leurs lois, et c'est là que c'est décevant.
Et justement, tout ça a mené à un phénomène que vous n'avez pas pu rater, qui accapare l'actualité depuis quelques temps, c'est le Brexit. Ça fait presque maintenant 2 ans qu'on en parle.
C'est même presque paradoxal pour un pays qui tente de quitter l'Union européenne d'en parler autant. Je ne sais pas si vous lisez la presse anglo-saxonne, c'est l'enfer.
Ça commence à se concrétiser, mais on parlera de tout ça après une petite pause musicale. On va écouter Essai de rigueur, Capitalist Blues de Leila McCalla. Et rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Excusez-moi. On va recommencer à parler du Brexit, c'est pas drôle du tout.
Non, mais on t'espère, hein. Nous, on t'écoute avec joie.
Oui, alors la question que je voulais vous poser, c'est brièvement, c'est... On voit que c'est assez compliqué du côté de l'Angleterre de se mettre d'accord sur quoi faire avec le Brexit.
Du Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni, navré. Est-ce que vous pensez... Alors, en revanche, du côté de l'Union européenne, ça a été assez clair. Ils ont finalement réussi à se mettre d'accord assez rapidement sur la position à adopter, qui était une position plutôt dure, c'est-à-dire ils ont voulu partir, et maintenant ils se débrouillent. Vous pensez que c'était un bon choix, ou il aurait fallu peut-être être plus souple?
Si je peux commencer, pour moi, de toute façon, déjà le premier truc à dire, c'est que quoi qu'on pense, en 2016, il y a 52% des Britanniques qui ont voté, et il y avait une participation qui était énorme, qui est supérieure à celle des autres élections qu'on a d'habitude, et 52% des gens ont choisi de sortir. Pour tout un tas de raisons, d'accord, on va pas rentrer là-dedans, mais il faut arrêter avec le débat, genre, si c'est pas légitime, les gens ont voté, maintenant il faut respecter. Deuxièmement, c'est que ça peut pas prendre des années et des années. Là, le truc qu'on est en train de discuter, ça s'est vu un peu aujourd'hui, c'est de rallonger. Or, ça va faire quasiment 3 ans qu'ils ont voté. Il est temps que le Brexit ait lieu. Et d'ailleurs, ce que dit l'Union européenne, mais après, derrière, c'est en fait, Theresa May fait absolument tout pour que le Brexit soit encore remis à plus tard. Pour moi, la façon dont je vois les choses, c'est que en fait, ça peut être une opportunité. Ils pouvaient en faire quelque chose d'intéressant. C'est pas du tout ce qui est en train de se matérialiser. Mais en fait, d'abord, le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, donc c'est un peu plus simple pour eux. Mais à mon avis, c'est surtout que c'est un pays qui est extrêmement désindustrialisé, qui s'est beaucoup appauvri, où les services publics ont été détruits. Et tout ça, c'était aussi l'occasion de le changer, en fait. Parce que sortir de l'Union européenne, ça permet aussi de réinvestir dans les services publics, ça permet aussi d'investir dans l'industrie, de renationaliser un certain nombre de choses, etc. Donc c'était l'occasion de faire tout ça. Or, ça n'a pas du tout été fait, et en plus, le hard Brexit, s'il n'y avait pas d'accord, ça n'a pas du tout été préparé. Aujourd'hui, c'est préparé à la va-vite depuis 2 mois à peu près, et c'est pas du tout en place. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, je comprends la position de l'Union européenne qui est extrêmement ferme parce qu'ils défendent leurs intérêts, mais à mon avis, l'accord que proposait Theresa May n'est pas du tout acceptable, parce qu'en fait, c'est encore plus intéressant d'être dans l'Union européenne, parce qu'au moins ils auront des eurodéputés où ils pourront discuter certaines choses plutôt que d'accepter les règles sans pouvoir les voter. Donc à mon avis, le vrai problème, c'est que le Brexit est une occasion manquée.
D'accord, donc pour résumer, en fait, selon toi, Theresa May propose une position qu'on peut qualifier du cul entre deux chaises.
Oui, après il faut dire que l'opposition, c'est pas où elle en est non plus, hein, clairement. Hein.
Rapidement, Jean-Christophe, Léo, si vous avez quelque chose à ajouter.
Pour répondre à ta question, en fait, je pense qu'on pouvait s'attendre et avoir peut-être peur que l'Union européenne soit trop dure. Sous notre question, par exemple, est-ce que l'Angleterre doit payer les dettes qu'elle a envers l'Union européenne puisqu'elle était censée continuer à payer pour le budget? Ça, c'était des questions qu'on se posait au début. Maintenant, la question que tout le monde se pose et qui est primordiale, le reste est vraiment secondaire, c'est l'Irlande. Et si le problème, c'est que l'Union européenne n'acceptera aucun accord, et ils ont quand même bien raison, parce que de toute façon l'Irlande mettrait son veto, ils n'accepteront aucun accord qui remettrait une frontière en Irlande, ce qui pourrait relancer les conflits. Pour ceux qui ne le savent pas, en janvier, il y a eu quand même un attentat à la bombe à la frontière irlandaise. Du coup, Theresa May essaye d'éviter cette situation, mais avec un deal qui est totalement désastreux, parce que son deal, ce serait que tant qu'il n'y a pas de solution trouvée pour garder la frontière, il n'y a pas de Brexit. Sauf qu'en réalité, à moins qu'on en trouve une technologie incroyable, il n'y aura jamais de Brexit dans ce cas-là, il n'y aura jamais de deal. Et si... je passe la parole à Léo.
Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait du tout en 2016 au moment de voter comme ça. C'était d'abord de se dire, ok, on va vous poser la question, est-ce que vous voulez rester ou pas dans l'Union européenne? En revanche, si vous votez contre, eh bien on sait déjà ce qu'on va faire. Là, le Brexit n'a pas du tout été préparé en amont du référendum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un référendum sur les bras, où on est censé quitter, le Royaume-Uni en tout cas est censé quitter l'Union européenne, mais il a fallu décider après comment, et personne n'a réfléchi à si c'était même envisageable. Le problème, c'est que les personnes qui défendaient le Brexit n'ont pas du tout réfléchi aux questions, notamment, comme le disait Jean-Christophe, de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Les personnes n'ont pas du tout réfléchi non plus à tout un tas d'autres questions. Et après, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait recalquer sur d'autres pays. Si demain, la France décidait de quitter l'Union européenne, on aurait le même problème avec l'Union monétaire. Si, je ne sais pas, l'Espagne décidait de quitter l'Union européenne à la place du Royaume-Uni, il y aurait un problème avec Gibraltar. Les pays de l'Est également, on pourrait avoir d'autres problèmes vis-à-vis de la Russie. Le fait est que l'Union européenne aujourd'hui est tellement dans un chemin qui s'est créé depuis une cinquantaine d'années ou depuis plus récemment pour d'autres États, mais qui ont adapté leur législation, leurs droits, leurs institutions à tout ce qui s'est fait depuis déjà 50 ans. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Union européenne dont il est très difficile de sortir. C'est un reproche qu'on pourrait faire à l'Union européenne. L'Union européenne aurait pu en avance prévoir un peu mieux qu'avec un simple article, comme l'article 50, la volonté de certains États de se libérer des institutions européennes. Ça n'a pas été fait, donc je pense que les États aujourd'hui ont juste à juger de leur intérêt à sortir ou pas de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas pour le Royaume-Uni. Je pense qu'il devrait y avoir un deuxième référendum.
Voilà, mais pour la question du Brexit, est-ce qu'on peut affirmer que prendre une décision si importante et si complexe par voie du référendum, est-ce vraiment démocratique, en fait ?
Absolument. Oui, c'est démocratique, parce que les gens se sont exprimés. Là, je rejoins Léo, je suis d'accord. Après, la vraie question, c'est comment on fait derrière. Et là, il n'y a pas eu de débat sérieux dessus. À mon avis, et c'est ça que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de position de l'exit, c'est-à-dire left exit, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui osent proposer autre chose que la sortie par la droite radicale ou c'est contre l'immigration, et que derrière on pouvait mettre en avant le fait que en fait la sortie de l'Union Européenne était une putain d'opportunité si on voulait essayer de réindustrialiser le pays, de remettre en place des services publics, ce genre de choses.
Jean-Christophe ?
Mais je suis assez d'accord avec William, mais du coup comme l'a dit Léo, il n'était pas prêt, il n'avait pas proposé un plan avant le référendum. Du coup je pense que maintenant, vu qu'en plus on est dans une impasse, il faudrait proposer un plan ou des plans au référendum pour voir ce que le peuple en pense aujourd'hui. Comme on le dit en droit, ce que le roi décide, le roi peut le défaire. Ce que le peuple décide, le peuple peut le défaire. Donc il pourrait décider soit de rester en Union européenne, soit de partir sans deal. Moi, je vois très peu de possibilités entre les deux. Il faut rappeler quand même que sans deal, ça veut dire potentiellement la loi martiale, parce que le Royaume-Uni a un plan, l'armée a un plan de loi martiale après le Brexit, et c'est potentiellement des problèmes d'approvisionnement en nourriture, en médicaments, etc.
Moi, je suis d'accord sur un truc de ce que tu viens de dire, c'est que globalement, les deux vraies options qui existent, c'est sortir sans deal ou rester dans l'Union européenne. Ça, c'est vrai, parce que sinon, de tous les deals, ils voudront rien. Ça, c'est vrai. Après, par contre, sur la question de l'Irlande, bon, personnellement, moi, je rejoins la position de Corbyn, c'est que, en fait, ce serait plus simple si l'Irlande se réunifiait. Mais, mais voilà.
On est d'accord.
Bon, c'est super intéressant. On va juste passer à autre chose parce que le temps commence à nous manquer et on va aborder une autre petite partie.
C'est surtout que vous introduisez tous les deux finalement la question qui va clôturer ce débat. Que faudrait-il imaginer pour entreprendre une renaissance européenne, pour encore une fois reprendre les doux mots de notre président? Mais comment pourrait-on faire pour repenser l'Europe?
Alors, repenser l'Europe, puisque c'est apparemment la volonté de notre président, et puis c'est également des termes qui ont été repris par d'autres dirigeants et d'autres forces politiques à l'étranger, mais au sein de l'Union européenne. Repenser l'Europe, aujourd'hui, ce serait, à mon sens, repenser une Europe des citoyens. Une Europe des citoyens, ça passerait par plus de démocratie déjà, donc plus de pouvoir du Parlement européen, évidemment. On ne veut pas voter pour un Parlement européen qui n'a aucun pouvoir face à la Commission. Plus de pouvoir des citoyens vis-à-vis également de leurs États membres, puisque l'Union européenne a ce pouvoir, et ça peut être regrettable pour certains, ça peut être une qualité pour d'autres, mais ce pouvoir de dicter un petit peu aux États membres ce qu'ils doivent faire. Donc elle peut dicter aux États membres ce qu'ils doivent faire pour bénéficier aux citoyens. Donc notamment dans les questions de respect de l'état de droit, l'Union européenne devrait pouvoir se placer derrière les citoyens pour les soutenir face aux États membres. Et enfin, une Europe plus de la localité. Donc, c'est-à-dire une Europe des régions, c'est la position du groupe des Verts et de l'Alliance Libre Européenne au Parlement européen. C'est une Europe où la région, la localité, aurait plus de pouvoir face aux États nationaux qui, au final, tentent d'étouffer ces régions à certains niveaux. On peut penser à la France, on peut penser à d'autres pays comme le Royaume-Uni aujourd'hui essaie d'étouffer la position écossaise. Mais cette Europe de la localité me semble assez essentielle pour plus de démocratie et plus de reconnaissance des droits des individus.
Merci à toi, Jean-Christophe.
Pour... Alors, très rapidement, parce que je suis totalement d'accord avec Léo. Évidemment, il faut renforcer le pouvoir des citoyens et notamment donc, du Parlement. Ça passe par des listes transnationales, comme l'a dit Léo, pour renforcer la légitimité du Parlement. Et ça passe aussi par une commission élue réellement par le Parlement. C'est déjà plus ou moins le cas de manière informelle. Juncker a été choisi parce que la droite a gagné au Parlement européen. Mais comme ce n'est pas dans les textes, ça pourrait ne pas arriver dans le futur. Donc il faudrait réellement avoir l'équivalent d'un Premier ministre élu par le Parlement, voire éventuellement élu directement par les citoyens.
Pour moi, on est en train de... Enfin, Aujourd'hui, on essaye de relancer l'Europe en créant par exemple une armée européenne, en parlant de parlement de la zone euro alors qu'il y a déjà un parlement qui existe, en faisant tout ce genre de choses qui est complètement déconnecté de ce que les gens demandent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est justement reprendre du contrôle. C'était le slogan du livre au Royaume-Uni qui a très bien marché. C'est parce que justement, ils se sentent complètement dépossédés de leur pouvoir et ils estiment notamment... et au Royaume-Uni, c'est en tout cas ce qui s'est matérialisé dans le vote, que ce pouvoir, il est parti à Bruxelles et qu'il serait mieux défendu s'il était, en l'occurrence, à Westminster, mais ça pourrait être le cas ailleurs. C'est la même chose que ce que les Grecs ont dit en 2015. C'est la même chose que ce que les Néerlandais et les Français ont dit en 2005 quand ils ont voté sur le référendum et qu'après, derrière, on leur a appliqué le traité de Lisbonne. Pour moi... la façon dont on devrait procéder, c'est de commencer à préparer le démantèlement en fait, de l'Union européenne. On peut maintenir un certain nombre de coopérations très intéressantes au niveau scientifique, au niveau universitaire. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est positif, c'est très bien, il faut le faire. Par contre, derrière, aujourd'hui, cette Union européenne, pour moi, ça reste fondamentalement une union qui reste au service des grandes multinationales et des grandes banques qui vont pouvoir bénéficier de la concurrence de différents systèmes. Et qui derrière va en fait appauvrir le pouvoir démocratique au niveau national. C'est très bien de parler par exemple de décentralisation. Moi je pense que le vrai problème c'est qu'aujourd'hui déjà l'Union Européenne est une échelle dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas, qui est beaucoup trop loin de ce que les gens se reconnaissent. Et après la décentralisation, faut pas que ce soit une décentralisation trop facile comme on a fait souvent en France par exemple, où on a transféré beaucoup de compétences aux localités, mais derrière on leur a pas du tout donné les moyens de le faire. Et du coup après ça c'est faire de l'austérité en fait. Et, sauf que l'État n'assume pas ses responsabilités.
Et juste pour compléter, cette décentralisation, je pense qu'elle doit s'accompagner d'une désinstitutionnalisation avec moins de pouvoir donné à l'État central et plus de pouvoir donné à la société civile. Donc que ça passe par la prise de décision, comme tu l'as dit, notamment les gens qui ont le sentiment d'avoir perdu le pouvoir, bah, réfléchir, faire une grande réflexion sur quel pouvoir mérite d'être donné à l'Union européenne. Est-ce que c'est uniquement les pouvoirs régaliens? Est-ce qu'il y a également les pouvoirs de décision économique, les pouvoirs de décision plutôt sociaux? Ou est-ce que ces pouvoirs-là peuvent être transférés à l'échelle locale ou à d'autres acteurs non étatiques?
Et c'est un très très large débat, mais que nous n'avons malheureusement pas le temps de continuer
c'est
ici ce
soir.
C'est déjà
bien, plein d'idées et plein d'espoir aussi, peut-être, pour le futur.
Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation.
Un petit rappel de qui était là, peut-être.
Oui, alors je vais le faire vite fait, parce qu'on va vite terminer. La régie s'agite. On avait William pour Contre-Courant de Sciences Po Grenoble, Jean-Christophe qui était là pour les Jeunes Européens et Léo pour Think Liberal.
Merci à tous les trois d'avoir participé. Nous sommes encore sur Radio Campus 90.8 et c'est la fin de l'apérophonie.
À la prochaine, salut tout le monde.
Merci.